Chapitre 20. Le cabas en bandoulière, la casquette encadrée par ses boucles châtains et ses fausses lunettes sur le nez, Jane s'éloigna d'un pas rapide de la maison en vente qui lui avait servi de refuge. La pluie ne voulait toujours pas tomber, mais une légère brise agitait les feuilles des palmiers, dont le murmure se transformerait en un chuintement appuyé à l'arrivée des premières bourrasques. Elle se débarrassa du téléphone jetable dans une bouche d'égout et attendit d'entendre le plouf espéré avant de s'éloigner. Elle tourna vers l'est, deux rues plus loin, et retrouva son Ford Escape noir garé à l'emplacement où elle l'avait laissé la veille, sous un poivrier sauvage. La voiture avait été volée aux États-Unis avant d'être substantiellement modifiée dans la ville frontalière mexicaine de Nogales, où on lui avait affecté un nouveau numéro de série, avant de la repeindre et de la mettre entre les mains d'un réseau de revendeurs en Arizona, de l'autre côté de la frontière. Le vendeur clandestin opérait depuis des locaux aménagés dans les granges d'un ancien ranch de chevaux. Il n'acceptait ni chèque ni carte bancaire et n'accordait aucun prêt, de sorte que Jane l'avait payé avec de l'argent liquide volé à des gens peu recommandables au Nouveau-Mexique. Le GPS du Ford avait été neutralisé et retiré, ce qui permettait à l'Escape d'échapper aux satellites de localisation. Jane en avait fini avec la vallée de San Gabriel, mais elle réservait un chien de sa chienne à Lorraine Sanafin. Le journaliste n'était que du menu fretin à ses yeux, mais il n'en appartenait pas moins à la bande de sociopathes montée par DJ Michael, avec l'aide de feu Bertolt Schenek, et elle comptait bien lui demander des comptes le jour venu. En arrivant dans la vallée de San Fernando, elle fut frappée par le contraste avec le quartier qu'elle venait de quitter. Le déclin ne se manifestait pas de la même façon dans tous les lieux qu'elle traversait. L'étiolement était souvent ténu, mais à certains endroits, on discernait un désespoir parfaitement représentatif de l'état de déchéance dans lequel s'enfonçait le pays. Elle fit halte dans un quartier encore épargné par les dégradations urbaines et acheta un sandwich dans une épicerie en veillant à ne pas adopter le comportement que l'on pourrait attendre d'une fugitive. Loin de baisser la tête, d'enfoncer sa casquette sur ses yeux et de fuir le regard de ses interlocuteurs, elle adopta l'attitude souriante de quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, allant jusqu'à discuter nonchalamment avec le caissier et s'intéresser longuement à une petite fille qui patientait dans la queue avec sa mère. Jane n'avait pas des origines sudistes, mais Nick avait grandi au Texas, et elle avait suffisamment fréquenté ses parents pour être capable de s'approprier leur accent et s'exprimer de façon radicalement différente de celle que l'on découvrait dans les vidéos d'elle que le FBI avait transmises aux médias. Tandis qu'elle grignotait le sandwich derrière son volant, trois éclairs rapprochés déchirèrent le ciel en éclairant brièvement les arbres, les immeubles et les voitures, avant qu'un coup de tonnerre fasse trembler le sol avec la puissance d'un séisme. Une pluie battante s'abattit sur le paysage urbain avec une violence tropicale, isolant brusquement Jane du reste du monde dans l'habitacle du Ford noyé sous le déluge.